Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Alors bonjour chez vous, mon nom est Emmanuel Choquette. Je suis professeur au département de communication et particulièrement heureux de pouvoir vous présenter une toute nouvelle émission qui s'appelle Ondes communes, création de groupe d'étudiantes et d'étudiants de maîtrise en communication stratégique au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Et je souhaite bienvenue à tout le groupe qui sont autour de moi présentement. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu, il y a beaucoup de monde en même temps parce qu'on est toute une bande en studio, on est à peu près 250. Et je vous dirais qu'à l'échelle, ça représente peut-être 12 personnes, mais quand même, on est assez nombreux et on va aborder donc différents sujets liés à la communication, des enjeux de communication internationaux. Et on va commencer ça tout de suite d'ailleurs avec, on va parler... En fait, on va vous présenter un premier reportage assez important, effectivement, qui parle de Meta et de l'arrêt des filtrages sur Meta, sur les plateformes Facebook en particulier. Et on va en discuter tout de suite avec Anaëlle, Amélie et Aloïse. Bonjour, vous trois.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est comme reportage en quelques secondes? Comment vous pourriez me résumer ça?
Ben, on va vous le résumer. En fait, c'est parce qu'on s'est interrogé sur Meta et l'arrêt du fact-checking qu'on a vu au début janvier. Mm-hmm. Et on a voulu vraiment creuser ça et voir les impacts. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien à faire avec le Canada et aussi l'Australie. Et donc, on a vraiment voulu regarder ce lien-là, comment ça se passe aux États-Unis, au Canada, en Australie. Et aussi, ben, on a été voir Marie-Ève Carignan pour avoir son point de vue professionnel et son expertise là-dessus.
Oui, et c'est intéressant parce que c'est une perspective... Justement, parce que ça ajoute au cours, évidemment, la notion de l'idée de cette émission qui est perspective internationale. Marie-Ève Carignan, pour la petite histoire, qui est prof au département de com aussi et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention des radicalismes et d'extrémisme violent. On va écouter ça tout de suite avec attention.
Meta frappe un grand coup. Fin du programme de vérification des faits aux États-Unis. Une décision qui inquiète experts et gouvernements, alors que d'autres pays, comme le Canada et l'Australie, ont déjà dû affronter Meta sur des questions de régulation des contenus.
La décision de Meta est tombée le 7 janvier dernier. Mark Zuckerberg a annoncé l'abandon du fact-checking sur Facebook et Instagram pour le remplacer par un système de notes communautaires où les utilisateurs eux-mêmes ajoutent du contexte aux publications. Si cela vous rappelle X, c'est normal. Meta s'inspire du modèle mis en place par Elon Musk. L'objectif suivi, plus de liberté d'expression, moins d'intervention d'experts jugés orientés politiquement et une réduction de la censure. Mais cette annonce ne sort pas de nulle part. Elle survient quelques semaines seulement avant l'investiture de Donald Trump. Meta s'est rapproché de l'administration républicaine. Zuckerberg a assisté à un dîner avec Trump et Musk, a nommé à des postes clés des partisans de Donald Trump et Meta a même financé la cérémonie d'investiture du nouveau président. On parle de 1 million de dollars.
Cette idée de donner plus de pouvoir aux internautes peut sembler séduisante, mais elle soulève de grandes inquiétudes. L'International Fact-Checking Network estime que l'abandon du fact-checking pourrait favoriser la désinformation et l'instabilité politique, surtout dans les pays les plus vulnérables. Et les États-Unis ne sont pas les seuls concernés. L'Australie a été confrontée à Meta en 2021 lorsqu'elle a adopté une loi forçant les géants du numérique à rémunérer les médias. En réponse, Meta avait bloqué les contenus journalistiques, une stratégie reprise plus tard au Canada.
Justement, au Canada, l'affrontement entre Meta et les médias est encore tout frais. En 2023, la loi sur les nouvelles en ligne obligeait les plateformes à payer pour la diffusion des articles de presse. Meta a réagi immédiatement en bloquant l'accès aux actualités sur Facebook et Instagram. Et le résultat, une augmentation significative de fausses nouvelles, puisque lorsque les contenus journalistiques disparaissent, les gens se tournent vers d'autres sources qui sont souvent moins fiables. Donc le risque n'est pas tant par rapport à l'accès à l'information, parce qu'on sait qu'il y en a tellement de nos jours, mais plutôt pour l'accès à une information de qualité, fiable et vérifiée, qui coûte cher à produire.
Et c'est exactement ce qui pourrait se produire aux États-Unis. Le journalisme de vérification n'a jamais censuré qui que ce soit. Il ajoute du contexte, rectifie les fausses informations. Or, Meta met fin à ce dispositif dans un pays où la désinformation a déjà eu des conséquences dramatiques. Souvenez-vous du 6 janvier 2021 et de l'assaut du Capitole, une insurrection nourrie par des théories du complot viral sur les réseaux sociaux. Nicole Gill, directrice d'Accountable Tech, affirme auprès de Radio-Canada que Meta est en train de rouvrir la porte à une vague de haine et de conspirationnisme.
L'Australie, de son côté, a pris une direction opposée. En novembre 2024, elle a adopté une loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, forçant les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs sous peine d'amendes massives. Son ministre des Finances, Jim Chalmers, a fermement condamné la décision de Meta aux États-Unis, estimant qu'elle risque d'accélérer la propagation de contenus dangereux et de nuire aux démocraties occidentales.
Ce qui est frappant, c'est que Meta applique des stratégies différentes selon les pays. Aux États-Unis, elle va assouplir la modération au nom de la liberté d'expression, alors qu'au Canada et en Australie, elle bloque les contenus journalistiques pour éviter de payer les médias. Dans tous les cas, ces choix ne sont jamais anodins. Ils ont des impacts directs sur la qualité de l'information à laquelle nous avons accès.
D'ailleurs, plusieurs études citées dans Le Monde montrent que le fact-checking a contribué à réduire la croyance aux théories du complot et la viralité des fake news. Abandonner cette modération risque donc d'avoir des effets immédiats sur l'écosystème de l'information en ligne.
Pour approfondir la question, nous recevons maintenant Marie-Ève Carignan, professeure spécialisée en information, journalisme et communication publique à l'Université de Sherbrooke, ainsi que co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, qui va nous donner justement son éclairage sur cette décision et ses conséquences possibles.
Le monopole des réseaux sociaux numériques par les grandes puissances américaines est clairement un danger pour les citoyens, pour le journalisme, pour l'avenir de la démocratie aussi. Donc, on doit habituer les citoyens à aller s'abonner à des applications des médias traditionnels d'information pour aller chercher cette information-là, et c'est difficile. Mais l'idée derrière ça, c'est ce qui est le plus problématique, c'est le fait qu'on ne reconnaît plus l'importance du journalisme professionnel, puis qu'on ne reconnaît pas non plus que le fact-checking, c'est quelque chose qui est assez neutre, qui est basé sur des sources, puis auxquelles on donne accès aux sources. On doit vraiment s'inquiéter d'un monopole qu'on a laissé s'installer, de grandes plateformes américaines, pour qui c'est pas l'intérêt des citoyens, de la démocratie, de la participation sociale qui est important, c'est le revenu. Et visiblement, en ce moment, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est le pouvoir également. La fin du programme de fact-checking aux États-Unis par Meta est vraiment préoccupante, en fait, parce que l'argument de Mark Zuckerberg pour l'arrêter est complètement fallacieux. On n'est vraiment pas dans la censure. On voit que tout ça a été fait selon un argument qui est complètement faux puis qui vise à pouvoir réhabiliter du contenu qui serait peut-être problématique puis censurer parce qu'il y a des effets politiques. La décision de Meta, c'est peut-être un test et c'est peut-être plus facile à adopter aux États-Unis dans le contexte politique actuel, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'appliquera pas dans d'autres pays.
Finalement, l'enjeu dépasse largement Meta. Qui doit décider de ce qui est vrai ou faux sur les réseaux sociaux? Les plateformes elles-mêmes? Les gouvernements? Les internautes?
Très grosse question en finissant au pluriel. Hein? Et je me demandais justement dans quelle mesure est-ce qu'on a une part de responsabilité là-dedans, individuelle? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, à mon avis, oui. Je pense qu'en tant que citoyen, on a quand même une grosse part de responsabilité là-dedans. C'est sûr qu'on a un certain volet d'éducation à recevoir, soit de la part du gouvernement, que ce soit à l'école, peu importe, d'apprendre à évaluer l'information qu'on reçoit, être capable de déterminer si elle est vraie, si elle est fausse, donc d'essayer de contrer cette numérique-là. Mais de notre côté, je pense que c'est de s'informer auprès de médias traditionnels qui sont valorisés, que ce soit la presse, le devoir, peu importe. Donc, de s'informer auprès de sources qui sont fiables, qui sont véridiques. Puis c'est de l'information, justement, qui a été produite par des journalistes professionnels plutôt que de se tourner vers des sources peut-être qui sont moins fiables ou toute autre source d'information qui n'a peut-être pas été vérifiée.
Quand on parle de s'informer auprès des médias traditionnels, bon, on en a nommé quelques-uns. Évidemment, au Canada, on a la presse, par exemple, dans le monde, dans la presse francophone, j'entends, Le Devoir, Journal de Montréal, etc., la Radio-Canada, CFAQ, au moment où on se parle, en est un, d'une certaine façon. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, hein, c'est peut-être d'avoir les applications sur notre téléphone. C'est-à-dire, encore faut-il y aller, n'est-ce pas, Aloïse?
Oui. Tout à fait. Ben, effectivement, je pense que si on reste coincé sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, on ne reçoit pas spécialement toujours une information fiable. Alors que justement, si on installe les applications sur nos téléphones, on est sûr de recevoir la notification avec la nouvelle du jour. Et donc, on est sûr de rester sur des choses fiables.
Oui. Anaëlle, juste pour terminer là-dessus, évidemment, il y a un point de vigilance, mais c'est préoccupant. Au moment où on se parle, on a l'impression que ça va être... C'est pas un combat qui est gagné d'avance.
Mais non, c'est pas un combat qui est gagné d'avance. Après, il faut pas s'alarmer. Il y a encore du contenu fiable sur les réseaux sociaux. Mais je pense que, comme on l'a dit, aller sur les applications, ben, ça permet de mener ce combat à bien et de vraiment valoriser les sources journalistiques qui sont, elles, fiables et qui produisent du contenu de qualité avec des journalistes payés. Donc, c'est pas un combat mené d'avance, mais on peut y arriver si on se met tous ensemble vers quelque chose de positif.
Bon, on va se laisser sur le terme positif. Je pense que ça va être plus enthousiasmant. Merci. Merci à toute l'équipe d'avoir réalisé ce reportage. Merci beaucoup. Deuxième reportage, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a travaillé très fort pour préparer une émission de qualité avec beaucoup de contenu. Le deuxième reportage traite aussi d'un sujet. Je dirais que c'est un sujet d'actualité, mais qui existe depuis longtemps, mais c'est davantage même une notion, d'une certaine façon, qui est très présent en politique, dans le domaine de la communication politique en particulier, et c'est le storytelling. Pour en parler, je reçois Chloé et Jérémy. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci. Oui, c'est un petit moment d'hésitation, mais le bonjour, c'est bien fait d'entendre. Le bouton du micro est super utile quand il est ouvert, il faut l'avouer. Qu'est-ce qu'on va parler exactement?
Alors, comme vous l'avez bien dit, avec mes collègues, on s'est en fait intéressé à un enjeu international particulièrement d'actualité, donc celui de la communication politique, et plus précisément sous l'angle du storytelling ou, si vous préférez, de la narrativité. On voulait en fait comprendre comment la communication politique a évolué ces dernières années pour devenir plus personnelle et accessible au grand public. En fait, on veut se concentrer sur le storytelling des politiciens qui, depuis l'avènement des réseaux sociaux, s'est réellement transformé et même bouleversé, a réellement bouleversé les codes du paysage politique. Dans ce reportage, on va donc vous présenter un exemple concret, celui de la web-série du président français Emmanuel Macron, nommé Le Candidat, et qui a été diffusée en 2022 durant sa campagne d'élection sur la plateforme YouTube.
Fascinant. On va écouter ça avec Antoine, avec attention. Et je dirais même qu'on va prendre des notes.
Lorsque l'on parle de politique, on peut penser à divers aspects tels que les débats, les idéologies, les discours ou encore les stratégies électorales. Mais au-delà des chiffres, des promesses et des programmes, il y a une dimension essentielle qui façonne la perception des dirigeants et des campagnes, le storytelling. Dans ce segment, nous vous proposons d'explorer cette technique de mise en récit. Un outil puissant qui permet de captiver, d'émouvoir et de convaincre. Le storytelling ne se limite pas à raconter une histoire. Il sert à donner du sens aux actions, à créer une identité forte et mobiliser un public autour d'une vision. Dans un contexte de communication politique, le storytelling devient un levier stratégique qui peut permettre aux candidats et aux gouvernants de construire un récit cohérent autour de leur parcours, leurs valeurs et leurs ambitions. Il a le potentiel de transformer un simple programme électoral en une aventure humaine auquel chaque électeur peut s'identifier et adhérer. Depuis l'avènement des médias numériques, en particulier les réseaux sociaux, les politiciens n'ont pas hésité à mobiliser ces outils dans leur stratégie de communication politique, transformant la manière dont ils construisent leur storytelling. Cette évolution rapide nécessite forcément une adaptation au format court et percutant des plateformes numériques, où l'on favorise une approche plus émotionnelle et personnalisée. On observe donc une transformation des discours politiques qui deviennent plus simplistes et fragmentés dans un but de capter l'attention d'une large audience et de rapidement s'adapter aux réactions du public. Cette nouvelle façon de communiquer dans le paysage politique a révolutionné la manière dont les politiciens interagissent avec les médias et le grand public. En 2008, Barack Obama fut l'un des pionniers dans l'usage des réseaux sociaux comme Facebook pour sa campagne présidentielle dans l'objectif d'encourager les jeunes à aller voter. Il a également utilisé YouTube afin de rendre son discours politique plus accessible et sensibiliser un large public de plus en plus connecté. Cette approche a depuis été adoptée par plusieurs politiciens à travers le monde. Un excellent exemple est la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2022 avec sa web-série.
Cette web-série qui porte le nom « Le Candidat » avait pour but d'appuyer sa campagne de réélection en 2022. Un total de 8 épisodes de format court sont sortis hebdomadairement à partir du 4 mars 2022 sur la chaîne YouTube de la coalition. Ces épisodes retracent la vie du candidat durant sa campagne. Dans cette série, nous retrouvons un président plus humain. Il se pose des questions sur l'avenir, il explique son ressenti. Il va par exemple mettre en avant dans un épisode que le vécu d'une infirmière, suite à la crise du Covid, lui fait mal au cœur. Ces éléments vont servir à appuyer l'empathie de l'auditeur. Cette mise en récit d'humanisation d'une figure d'autorité est appuyée par le ton calme généralement pris par le candidat, ainsi que l'utilisation de musique lente, voire triste. On y retrouve aussi un président qui paraît accessible et transparent. Emmanuel Macron va miser sur des discours de proximité et d'engagement, loin de la rhétorique habituellement proposée par les partis. On va par exemple le voir aller dans des zones rurales, parler aux jeunes, discuter avec des maraîchers. Il y a une volonté d'être plus intimiste et de montrer des échanges avec le peuple. Du point de vue de la transparence, on le voit répondre aux questions en permanence et montrer qu'il n'a rien à cacher. Par moments, Macron se confronte à des opinions divergentes aux siennes. Un élément qui nous a marqué est que malgré la volonté de mettre en récit le président, son vécu et montrer l'envers du décor, on va retrouver des propositions politiques plus habituelles lors d'une campagne électorale. Toutefois, ces propositions sont présentées de manière moins directe. Le format proposé va donc permettre de mettre en avant certains sujets et certaines réponses, parfois en leur donnant un caractère plus réel car Macron parle de manière moins formelle, sur des enjeux comme l'égalité des chances ou des taxes.
La web-série d'Emmanuel Macron est donc un excellent exemple parmi tant d'autres, qui prouve que les politiciens maîtrisent l'art du storytelling. À travers le récit, ils mettent en scène des idées afin de faciliter leur transmission en créant un lien affectif avec leur audience. Tout comme pour les stratégies de communication des entreprises, un des objectifs majeurs de la communication politique est de plaire et de faire adhérer l'audience aux messages portés par les émetteurs. Pour cela, des histoires structurées et engageantes permettent de capter l'attention et provoquer des émotions, ou même d'instruire et d'agir pour changer le statu quo. Aujourd'hui, avec l'avènement des médias numériques, le storytelling s'est transformé en un outil puissant et omniprésent dans la sphère politique. YouTube, Twitter, TikTok ou les plateformes de Meta permettent désormais aux leaders d'incarner directement leurs messages sans l'intermédiaire des médias traditionnels. Les formats courts, les séries documentaires ou encore les lives interactifs leur offrent une proximité inédite avec leur électorat, tout en contrôlant leur propre narration. Cette accessibilité immédiate redéfinit la manière dont les récits politiques sont construits et reçus. Plus dynamique, plus immersif, mais aussi parfois plus polarisant. Dans ce paysage numérique en constante évolution, le storytelling politique continue de façonner les débats et d'influencer l'opinion publique. Mais une chose est sûre, tant qu'il y aura des idées à défendre et des publics à convaincre, il restera un levier central du jeu politique.
On l'entend dans votre reportage, hein, ce qu'on entend, et il y a plein de choses qu'on entend qui sont fascinantes, mais ce qu'on entend en particulier, c'est la personnalité, d'un certain sens, de la personnalité politique, et dans ce cas-là d'Emmanuel Macron, qui se met de l'avant. C'est-à-dire, c'est une véritable mise en scène, non seulement pour alimenter son image, mais pour alimenter aussi son idée, son programme, faire avancer, finalement, ses intérêts politiques, d'une certaine façon. C'est ça, Jérémy?
Oui, tout à fait. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment, dans ce storytelling, on voit Emmanuel Macron qui raconte vraiment une histoire sur qui il est, mais également comment il veut présenter sa candidature et son évolution tout au long de sa campagne. Et c'est vraiment l'essence du storytelling du coup, qu'on met en avant dans le reportage, que ce n'est pas juste un documentaire, ça va jouer avec les codes de la fiction et vraiment raconter énormément de choses. On a dû faire une sélection, évidemment, de ce qu'on voulait raconter, mais c'est un peu ça, oui.
Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est à travers aussi un processus relativement contemporain. Ce n'est pas d'hier qu'on fait du storytelling, etc. Mais là, c'est une web-série. Je veux dire, une web-série d'un président français, Mathias, qui vient de se joindre à nous il y a deux secondes. Je trouve ça fascinant, non? C'est quand même...
Je trouve que ça reflète juste en fait le fait que de nos jours, les réseaux sociaux prennent une place, non pas seulement dans la communication des entreprises, mais également en politique, comme on vient de voir avec le cas d'Emmanuel Macron. Et pas seulement, comme on a dit au début du reportage, il y a également Barack Obama qui a été le pionnier avec YouTube ou Facebook. Donc ça ne m'étonne pas que de plus en plus de politiciens utilisent ces outils-là pour communiquer et pour construire leur storytelling.
Exactement. Et ça, ben, en déplaise à certains de mes collègues qui n'aiment pas le terme, mais ça s'appelle le marketing politique dans l'approche dans le champ de la communication politique. Chloé, en terminant, qu'est-ce qui, dans ce reportage-là, on pourrait dire d'une certaine façon, a été pas nécessairement une révélation, mais quelque chose que tu as noté de façon particulière? Je sais pas si c'est de quoi qui te vient en tête.
Enfin, l'essence, en fait, d'avoir fait ce reportage, c'est aussi de voir un peu l'évolution des réseaux sociaux et comment ça vient mais complètement bouleverser le paysage politique. Comment les politiciens, depuis quelques années déjà maintenant, commencent à utiliser ces outils, donc les Reels, les TikTok. Enfin, ils essayent vraiment de toucher une cible plus jeune et à essayer de trouver des nouveaux électeurs et de vraiment montrer une image très authentique, très spontanées et qui du coup ne doivent plus passer par les médias traditionnels pour montrer un peu parler de leur plan politique. Enfin voilà, maintenant ils essayent vraiment d'avoir cette image très spontanée et de créer de l'émotion chez leurs électeurs qui du coup auront plus de sympathie peut-être pour ces politiciens qui ne cachent rien au final en montrant ces vidéos en direct.
C'est quand même incroyable ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il y a une espèce de parallèle avec le reportage juste avant, c'est-à-dire où on disait ben il faut quand même aller sur les médias traditionnels ou à tout le moins je veux dire faut pouvoir avoir accès à eux pour avoir une information fiable, vérifiable. Et on a un président d'une République qui court-circuite d'une certaine façon les médias traditionnels. Pas nécessairement à mauvais dessein, mais tout de même, ça mérite réflexion. Merci beaucoup à vous trois. On fait une courte pause, puis on se retrouve dans quelques instants pour parler actualité, on va le dire comme ça. Toujours sur les ondes de Ondes communes, cette émission de CEFAC avec toute la belle bande de maîtrise au département de communication. On va discuter de trois sujets d'actualité. À chaque émission, on va essayer de faire ça, de s'attarder de façon plus spécifique sur certains éléments, puis essayer de voir quels sont les enjeux de communication qui tournent autour de ça. Le premier, c'est pas banal, parce qu'effectivement, on souligne les 5 ans de la pandémie. Il y a 5 ans, on se retrouvait presque tous et toutes confinés à se demander qu'est-ce qui allait arriver. Et on va donc discuter de ça avec Ameline et Mélissa. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, COVID, 5 ans, qu'en est-il?
Eh oui, comme vous l'avez dit, en ce début d'année 2025, nous fêtons déjà les 5 ans de la pandémie du COVID-19. Évidemment, il s'agit d'un sujet avec lequel nous sommes tous familiers et qui a fait basculer le monde entier lors de l'année 2020. Bien heureusement pour nous, ce sujet est derrière nous, pour le moment.
Mais que pouvons-nous en retenir au niveau des stratégies déployées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et que devrions-nous appliquer s'il venait qu'à se produire une autre pandémie?
Oui, donc nous allons commencer par critiquer certains aspects des stratégies mises en place il y a de ça 5 ans en arrière. D'abord, certains politiciens américains, ainsi qu'une pétition en ligne, ont accusé le directeur général de l'OMS d'être trop proche de la Chine lors de la pandémie et de s'appuyer uniquement sur les données chinoises. Selon eux, cela aurait empêché une réaction objective et indépendante, contribuant ainsi à une mauvaise gestion de la crise sanitaire au niveau international. Ensuite, l'OMS a aussi été critiquée pour sa lenteur. Elle aurait tardé à reconnaître la transmission interhumaine du virus, a déclaré l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale et a envoyé une équipe d'experts en Chine. Face à une crise mondiale, la rapidité est un élément clé. Enfin, du côté de la communication, l'OMS a manqué de clarté et de cohérence. L'utilisation désorganisée de plusieurs canaux et l'absence de définition précise ont entraîné des messages ambigus, générant confusion et incompréhension.
Alors maintenant, quoi faire si une autre pandémie nous arrivait? Bien d'abord, la crise sanitaire a mis en lumière l'importance d'une communication rapide, transparente et coordonnée entre les pays. Il faut partager en temps réel les informations scientifiques sur le virus, son évolution et les stratégies de lutte. Ensuite, la simplicité et la clarté des messages sont essentielles. Il est recommandé de limiter le nombre d'informations transmises et de les adapter aux différentes langues et cultures. Enfin, la pandémie a souligné l'importance d'une communication empathique et sensible aux conséquences psychosociales de la crise. Il est essentiel de pratiquer l'écoute et de reconnaître les efforts collectifs pour maintenir la motivation de la population sur le long terme. Donc, en conclusion, une communication internationale efficace repose sur la transparence, la coordination et sur l'adaptation aux réalités locales. Ces leçons seront précieuses pour affronter les futures crises sanitaires mondiales et construire un monde en meilleure santé.
En vous écoutant, je me pose la question. Évidemment, on n'est pas des experts, des expertes en la matière, mais en termes de communication, je ne sais pas si toutes les leçons sont tirées. S'il y avait une autre pandémie, effectivement, est-ce qu'on a l'impression que ça y est, on a bien compris et que tout est réglé? Je ne suis pas sûr. Hein?
Je crois qu'il y aura d'autres pandémies, malheureusement.
Ouais, hein?
La fonte des glaces, notamment, fait ressurgir certaines bactéries auxquelles on n'a jamais été exposé, par exemple.
Tiens donc.
Donc, je pense que chaque pandémie va nous amener un nouvel apprentissage. Je ne crois pas que ce soit une recette unique qu'on pourra appliquer d'emblée à chaque pandémie.
Mais dans ce que vous venez de dire, je viens d'entendre, Ameline, je dis qu'il y a la question de, on pourrait dire, de l'adaptabilité. Je veux dire, les contextes mondiaux sont vraiment multiples. C'est tout un enjeu quand même. C'est pas la même réalité, je sais pas, en Amérique du Nord versus l'Amérique du Sud, sur le continent africain, en Europe, etc. C'est pas simple.
Oui, mais il y a certains critères qui peuvent être appliqués assez facilement, par exemple la rapidité, l'organisation, l'utilisation de plusieurs canaux. Aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux sociaux, on a plein de moyens de transmettre de l'information. C'est des choses comme ça qui peuvent être appliquées dans différents contextes, même si chaque pandémie est différente, mais il y a quand même des critères qui sont essentiels. La transparence aussi, comme on l'a dit, la clarté. Et voilà, je pense que c'est applicable pour certains cas. Après, oui, il y a certains critères qui seront un peu plus compliqués.
Des facteurs intéressants à tenir compte en communication stratégique. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Deuxième enjeu d'actualité dont on va parler et ça discute parce qu'effectivement, les sujets suscitent énormément de réactions et c'est fascinant. Le deuxième, on a évoqué tantôt la fonte des glaces il y a deux secondes, Mélissa parlait de ça, mais là, effectivement, on est dans le terrain des changements climatiques. J'en discute avec Anaël Boris. Enjeu climatique, comment on veut aborder ça aujourd'hui?
Ben en fait, on s'est rendu compte que le climat, il est omniprésent dans les médias, mais selon les pays, la manière d'en parler va différer et surtout les priorités vont varier. Par exemple, dans les médias occidentaux, donc au Canada, en Belgique et en France, l'information climatique, elle est quotidienne. Donc on va alerter sur les catastrophes naturelles, on va analyser les grandes tendances scientifiques, mais on s'est posé la question, est-ce que cette communication est réellement efficace? Un chiffre donné par La Presse, le média québécois, il interpelle. 3/4 des Canadiens croient au changement climatique, mais moins de la moitié se sentent concernés. On est donc là face à un paradoxe, un flot d'informations, mais un manque d'impact sur la perception du risque. Et quand on cherche à pousser à l'action, les angles choisis vont vraiment interroger. Faut-il renoncer au ski, proposé par le journal Le Monde, ou avez-vous changé votre alimentation pour le climat, cette fois-ci par le média belge, la RTBF? Ces questions révèlent un réel décalage. Elles concernent ces choix de confort dans des pays qui finalement se sentent peu concernés. Peut-on vraiment créer donc une prise de conscience avec ce type de discours ? En Afrique, la communication climatique adopte une approche plus locale et pragmatique, mais elle reste inégale et souvent sous-médiatisée. En Côte d'Ivoire, par exemple, on parle climat principalement à travers des discours institutionnels, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. Mais dans les médias, les articles sur le sujet sont assez rares et souvent techniques, ce qui limite l'accès au grand public à l'information. Au Cameroun, l'accent est mis sur les enjeux nationaux. Sécheresse, pluie régulière, gestion des déchets par l'université. Contrairement aux médias occidentaux, les catastrophes internationales comme les incendies de Las Vegas du début de l'année ne sont pas du tout reliées. Enfin, Las Vegas, la Californie.
La Californie, oui. Dans l'Ouest.
C'est
dans
ça,
l'Ouest.
On est dedans. Ce manque de couverture, donc ça va nous soulever une question. Et si le climat est un problème mondial, pourquoi l'information reste-t-elle si fragmentée? Pourquoi certaines voix sont-elles moins entendues dans l'espace public? Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, la communication sur le climat est à deux vitesses. D'un côté, des discours alarmistes dans les pays qui se sentent peu concernés. De l'autre, des pays en première ligne du changement climatique, mais dont les récits peinent à se faire entendre. Une vraie stratégie de communication devrait permettre de créer un lien entre ces réalités et redonner du pouvoir d'agir à ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'on le sait, si informer, c'est bien, donner les moyens d'agir, c'est encore mieux.
Oui, agir, effectivement. Communiquer pour faire agir, Boris. C'est, en termes de changement climatique, des enjeux climatiques, c'est là, on pourrait dire, peut-être un pouvoir un peu sous-estimé de la communication, c'est-à-dire faire en sorte de faire bouger les gens, de les faire agir pour le climat.
Oui, on est sur une sous-estimation de la communication, notamment de la communication en Afrique, qui n'est pas du tout réellement mesurée de la part de la population. Qui, par exemple, on a trouvé une entrevue sur RFI après le congrès en Belgique de l'Union européenne de notamment sanctionner les pays africains qui participent activement à la déforestation. Eh bien, le président ivoirien Alassane Ouattara a répondu que ce n'est pas du tout de l'Union européenne, du ressort de l'Union européenne, de donner des leçons au président africain sur la gestion de ce. La gestion du pays en termes déforestation, thème de climat. Donc, on est sur deux types de mesures différentes. En thème de, par exemple, en Europe, on va dire, on est sur des principes concrets,
oui.
Des décrets concrets, des publicités concrètes. Mm-hmm. Mais en Afrique, on est sur plutôt de la réaction. On est sur plutôt de la réaction face à la pression européenne.
Mm-hmm. Donc. Ce que tu soulignes est super important, hein, parce que, encore une fois, quand on parle de communication et d'enjeux de communication internationale, l'enjeu climatique en est un. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte de communiquer l'enjeu, l'information, réussir à pouvoir s'entendre, se comprendre aussi, en fonction, bien sûr, des différentes façons de communiquer, vais-je le dire, et de comprendre ces enjeux communicationnels. Merci beaucoup à vous deux, encore une fois, fascinant. On vous revient dans quelques instants avec le dernier sujet d'actualité. J'ai comme l'impression qu'on va avoir cette petite chanson en tête pendant quelques jours. En tout cas, moi, je vais l'avoir. Dernier sujet, et pas le moindre, hein. On parle d'intelligence artificielle et de régulation d'intelligence artificielle. Et pour en discuter, j'ai Amélie, qui vient tout juste de se joindre à nous. Et là, Aloïse. J'étais sur le point de l'avoir. Je m'excuse. Et Aloïse. Donc, effectivement, enjeux d'intelligence artificielle et enjeux internationaux.
Tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse folle, mais sa régulation, elle, traîne encore. Mm-hmm. Et ce n'est pas juste une question de loi ou de technologie, c'est aussi une question de communication et de stratégie politique. Chaque pays essaye d'imposer sa vision de l'IA, ce qui complique la mise en place de règles communes et creuse encore plus les inégalités entre ceux qui contrôlent la technologie et ceux qui la subissent.
Oui, alors on va prendre l'exemple des États-Unis. En fait, en janvier dernier, Donald Trump a signé une ordonnance sur l'IA qui s'appelait « Éliminer les barrières au leadership américain en intelligence artificielle ». L'objectif ici, c'était de faciliter l'innovation américaine en allégeant les réglementations pour que les entreprises technologiques puissent aller encore plus vite. Mais derrière l'envoi de ce message officiel-là, il y avait vraiment une vraie stratégie de communication. Donc, en disant vouloir retirer les obstacles, Washington insiste sur la nécessité de rester leader mondial, ce qui envoie un message assez clair aux autres puissances. Donc, ça soulève ici un questionnement important. Est-ce qu'on se dirige vers un monopole américain de l'IA?
Cette stratégie, elle est aussi visible sur la scène internationale. Récemment, au Sommet international sur l'intelligence artificielle, une soixantaine de pays ont signé une déclaration en faveur d'une IA ouverte, inclusive et éthique. Les États-Unis et le Royaume-Uni, eux, ont refusé de signer. Officiellement, ils disent que trop de régulation risque de freiner l'innovation. Mais, en réalité, c'est aussi une manière de garder le contrôle. En restant en dehors de ces accords, ils se laissent la liberté d'imposer leurs propres règles plus tard et surtout de ne pas se faire dicter la marche à suivre par d'autres.
Puis en fait, ce refus d'adhérer à des protocoles communs, ça accentue aussi les inégalités. Aujourd'hui, l'Europe veut une IA qui est bien encadrée, qui est basée sur la transparence, sur les droits humains, alors que la Chine, elle, de son côté, elle développe l'IA dans une logique de surveillance et de domination technologique. D'ailleurs, il y a un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui souligne que la gouvernance mondiale de l'IA est largement dominée par les pays développés, ce qui laisse peu de place aux économies émergentes pour faire valoir leurs besoins spécifiques. Donc, ce rapport-là permet d'en conclure que les pays en développement ont malheureusement rarement leur mot à dire. Ils manquent souvent de ressources pour se positionner dans ces débats-là, puis doivent suivre les règles dictées par les grandes puissances sans pouvoir vraiment influencer les décisions.
Et donc, finalement, qui fixe les normes? Qui a le pouvoir de dire ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas? Pour l'instant, ce sont surtout les pays les plus avancés technologiquement qui dominent cette conversation.
Oui, et là-dedans, veut pas, Amélie, il y a la notion de pouvoir là-dedans. C'est-à-dire avoir le pouvoir de développer, de maîtriser cette technologie.
Oui, c'est sûr. En fait, les pays qui sont en développement n'ont peut-être pas ce pouvoir-là, cette chance-là, alors qu'on parle ici des États-Unis qui a énormément de contrôle présentement sur l'intelligence artificielle, qui a énormément de puissance. Donc, on voit une inégalité qui est quand même assez marquante. Puis, c'est inquiétant parce qu'on sait que l'IA se développe à une vitesse folle. Elle se développe quasiment plus vite que nous, en fait, qu'on peut la découvrir puis tout ça. Donc, c'est quand même assez inquiétant de voir cette inégalité-là de pouvoir entre les pays qui sont émergents puis les pays qui ont un peu plus de pouvoir présentement.
Aloïse, partages-tu cette inquiétude?
Oui, tout à fait. Ben, avoir un monopole dans quelque chose, c'est jamais une bonne chose. Moi, je trouve, je trouve qu'il vaut mieux avoir un peu de diversité. Il vaut mieux que chaque pays puisse avoir son mot à dire et les capacités à créer ses propres logiciels pour justement éviter qu'il y ait des problèmes par après parce qu'il y en ait un qui soit plus puissant que l'autre et qui puisse au final faire du chantage à d'autres.
Oui, effectivement, et là-dedans, il y a tellement de choses qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent dans toutes les dynamiques communicationnelles aussi. C'est-à-dire, oui, effectivement, la technologie elle-même, le pouvoir, tout ça, mais tout ça, il y a les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques qui s'entrecroisent, les endroits où on a un état de droit plus fort, un autre endroit où c'est plus faible, etc. Bref, vous soulevez tellement de points qu'on pourrait avoir une émission de 3 heures, ce qui n'est pas le cas. Merci énormément.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Couper court à ce petit jingle pour parler de... Ben, je vais dire de création. C'est vachement intéressant. Donc, la création, de qu'est-ce que... De quoi on va parler exactement? Pourquoi on parle de création aujourd'hui? Puis pour en discuter, j'ai Solène et Manon qui sont avec moi. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oui, vous allez aborder la création dans votre reportage sous quel angle?
Alors, nous avons eu l'honneur d'accueillir Dany Baillargeon, professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke, dans une entrevue il y a quelques jours. Et tout au long de cette entrevue, nous avons abordé de nombreux sujets, comme tu viens de le dire, autour de la créativité et de l'innovation, et dans un contexte vraiment international. Donc en vrai, je ne pense pas qu'il faudrait spoiler directement. Je pense que c'est très intéressant d'écouter d'abord l'entrevue et après qu'on en rediscute.
Ça a bien du bon sens. Alors, on écoute ça tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Manon.
Et Solène.
Et on vous propose, sans plus tarder, d'accueillir un invité de choix, Dany Baillargeon, professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Passionné par les liens entre créativité, communication et innovation, Dany va nous aider à plonger dans une réflexion autour de ces enjeux. Bonjour Dany.
Bonjour Manon, bonjour Solène.
Bonjour Dany. Et pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je suis professeur en communication organisationnelle. Donc, à la base, ce qui m'intéresse, c'est la communication entre les gens à l'intérieur des organisations, mais aussi plus largement entre les gens et les objets. Donc, comment, quand on essaie d'être créatif, on utilise différents objets pour nous aider à être créatifs. Et aussi, comment la communication entre les humains et les machines favorise ou défavorise notre créativité. Fait que globalement, tout ce que je fais comme recherche et comme enseignement, c'est pour voir ces interactions-là entre les humains et les objets, et entre les humains et les machines.
Et donc, on connaît cette créativité comme venant relier différents domaines, au-delà de la communication. On est même, nous, aujourd'hui, réunis autour de ce sujet-là qui dépasse le milieu de la communication. Mais donc, forcément, si elle vient relier différents domaines, on sait qu'il y a différentes tensions qui peuvent venir s'immiscer dans tout ça. Quelles seraient ces tensions et sur quoi est-ce qu'elles se baseraient?
Étonnamment, on a l'impression que le mot « tension », c'est quelque chose de forcément négatif, alors qu'au contraire, quand on travaille en créativité, c'est souvent à travers les tensions que la créativité va émerger. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'une tension? C'est lorsqu'on est face à une situation, on a le choix entre A ou B. Alors, imaginons qu'on est dans un groupe où est-ce qu'il y a des ingénieurs, il y a des gens en communication, il y a des gens qui sont en éthique, il y a des gens qui sont en marketing. Et puis là, on est en train de vouloir développer un nouveau produit. Bien, les tensions qui vont émerger, c'est entre ce qui est important ou ce qui importe pour chacun de ces groupes-là. Alors, les gens en marketing vont dire, oui, mais il faut que ça soit, faut qu'il y ait un public cible pour acheter ce produit-là. Les gens en ingénierie vont dire, oui, mais il faut être capable de le développer, ce produit-là, qu'il soit innovant technologiquement. Les gens en éthique vont dire, oui, mais attention à l'impact environnemental ou à l'impact socioculturel de cette nouvelle technologie-là qu'on est en train de développer. Alors, toutes ces tensions-là, si on réussit à les embrasser et à les transcender en groupe, c'est là que la véritable créativité va arriver parce qu'on va être capable d'arriver à développer quelque chose qui répond à ces différentes tensions-là. Donc, la tension, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose avec lequel il faut savoir travailler et c'est là que l'aspect communication, donc interaction, est super important. Comment on réussit à nommer ces tensions-là, à les mettre sur la table, à les transformer en moteur de créativité.
Mais j'aime beaucoup cette image de moteur de la créativité parce que ça veut dire que de nouveau, et nous on l'apprend beaucoup à travailler là-dessus, je pense, au travers de nos études, c'est en fait finalement, bah, comme vous l'avez dit, embrasser ces tensions et puis les utiliser pour venir stimuler une créativité et stimuler bah, la mise en place de solutions qui en fait sont possibles que si bah, on perçoit le problème, on perçoit les tensions et donc si on les prend en compte, bah, on peut alors venir stimuler cette créativité, en faire un moteur.
Oui. Puis ce que je dis souvent dans les processus de création, nommer, c'est faire exister. Alors, comment on transforme une tension en un moteur de créativité? Bien, c'est de le faire passer d'une contrainte à un tremplin créatif.
Et donc, une question, ben, encore plus dans le cadre de cette émission, qui est tout le côté international, comment est-ce qu'on peut percevoir la créativité d'un œil international? Est-ce que cette créativité, elle est commune finalement à tout le monde? Est-ce qu'elle est standardisée? Est-ce qu'elle est censée être perçue du même œil, être utilisée de la même manière à l'international, ou est-ce que justement elle vient changer en fonction des pays, des cultures ou des organisations dans lesquelles on pourrait se retrouver?
C'est un enjeu organisationnel de tous les temps, pas plus aujourd'hui que dans le passé, c'est-à-dire à partir du moment où on a eu des organisations dont le marché transcendait la seule question nationale d'un pays, puis tout à coup, un produit se retrouvait sur plusieurs marchés, on a commencé à s'interroger plus fortement sur cette question-là. C'est-à-dire, existe-t-il une universalité à la créativité? Et bien sûr que non, parce que la créativité, ce qu'elle a de difficile, c'est qu'elle réside toujours dans l'œil de la personne qui l'évalue. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de critères objectifs pour dire « cette chanson est créative, cette application est créative ». Donc, quand on pense à créativité, c'est toujours la rencontre entre l'originalité. Donc, est-ce que c'est la première fois qu'on rencontre cette technologie, cette chanson, cette idée? Donc, ça, c'est l'originalité, la faible occurrence d'une idée dans un ensemble. Et la pertinence, donc à quel point cette idée-là répond à un besoin de marché, de culture, de préoccupations nationales ou internationales. Toujours faire cette espèce de jonglerie avec l'originalité et la pertinence tributaire de chaque culture, de chaque pays.
Ben, Dani, merci beaucoup.
Ça fait grandement plaisir.
On va clôturer sur cette idée-là. On vous remercie pour cette courte entrevue.
Merci à toi, Dani.
Merci beaucoup.
Merci.
Entrevue absolument super, hein? et je suis toujours content d'entendre mon collègue Dani qui est si éclairant. La créativité, ce que j'entends là-dedans, c'est comme un moteur, en même temps un moteur de communication, un moteur, c'est pas juste un moteur, j'allais dire, de création en termes, c'est pas moi, artistique, c'est autre chose, c'est beaucoup plus que ça, là.
Oui, c'est ça. En fait, Dani vient carrément parler de la créativité comme une sorte d'immense mécanisme dans lequel chacun des rouages aurait des particularités en fonction des organisations ou autres, et qui, justement, ben, on parle particulièrement des tensions, mais qui ouais. viendrait utiliser différents outils, différents moteurs, différents tremplins, justement pour booster cette créativité et en faire en fait quelque chose. Donc c'est sûr qu'au-delà même du domaine artistique, bah, cette créativité, elle est présente, je pense, dans toutes les organisations. Et puis on parle aussi du lien, du rôle particulier des communicants et de la communication, de venir faire ce lien au milieu de tout ça, de venir utiliser ces tensions, de mettre en fait en marche l'ensemble de ces rouages et l'ensemble de ces mécanismes pour produire la meilleure créativité possible. Je vais y arriver.
La troisième fois, c'est souvent la bonne.
C'est vrai.
Manon, ce qui est intéressant dans ce que tu dis et dans ce que vient de dire Dani dans votre reportage, c'est que finalement, effectivement, la créativité se retrouve dans bien des domaines et qu'on la mobilise, même des fois quand on s'en rend pas compte, mais que ça fait un peu le caractère exceptionnel de ce que l'on est, de ce que l'on fait aussi. Mm-hmm.
Ah oui, oui, non, mais ça, c'est certain. Et je pense que même, de façon générale, même toute personne qui ne prend pas conscience que la créativité est nécessaire dans sa vie, je pense que
c'est présent effectivement absolument partout et malheureusement on rentre dans un monde où cette créativité se voit étouffée par de nombreuses choses. Bon là on n'en a pas parlé mais d'autres domaines d'expertise de Dani entourent l'intelligence artificielle etc. Et donc c'est sûr qu'on a de nombreux outils qui sont perçus comme des dangers pouvant venir étouffer cette créativité. Et donc c'est à nous de lutter et de la stimuler le plus possible, ça c'est certain.
Ok, on va tâcher de relever le défi. Merci beaucoup à toute votre équipe d'avoir préféré cet excellent reportage, cette excellente entrevue.
Merci à vous.
Merci. Ben, j'allais dire dernier reportage de cette émission. Ben oui, tout à fait, on y est. Hein. On parlait tantôt de storytelling et il y a comme une figure imposée dans cette émission-là qui s'appelle « Raconte-moi une histoire ». Et aujourd'hui, on va raconter une histoire qui n'est pas banale, mais une histoire de chocolat. Et on en discute avec Boris, que je resalue. Boris, de quoi est-ce qu'on va parler en quelques secondes dans ce reportage qu'on s'apprête à écouter?
Bien, aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des Chocolats à la Montagne, une entreprise familiale fondée en 1978 à Sherbrooke, Québec. Depuis plus de 4 décennies maintenant, cette chocolaterie s'est distinguée par son engagement envers l'innovation et la qualité. Leur passion pour le chocolat les a conduits tout simplement à remporter à 4 reprises le Grand Prix canadien des nouveaux produits. Une reconnaissance assez prestigieuse dans l'industrie. Chocolat à la Montagne, petite entreprise estrienne, aujourd'hui reconnue à l'international, c'est cette histoire fascinante qui sera racontée tout de suite.
Une histoire de chocolat international qui part de l'Estrie. On écoute.
Une petite entreprise estrienne devenue une marque qui franchit les frontières, qui l'aurait cru? Et pourtant, c'est le pari réussi de Chocolat à la Montagne. Cette entreprise de Sherbrooke, Chocolat à la Montagne, l'a compris et innove constamment dans ce domaine en développant des produits créatifs et de haute qualité, tels que des pistaches enrobées de chocolat au lait ou encore des chocolats à saveur de gâteau tuxedo, composés de 3 couches de chocolat différents. Fondée en 1978, Chocolat à la Montagne basait à l'origine son modèle d'affaires sur le service de distribution de produits de chocolat pour les campagnes d'autofinancement, pour tranquillement se tourner vers la vente au détail dans les grandes chaînes au début des années 2000. Pour le fondateur Richard Lamontagne, tout a commencé dans un sous-sol. Il n'avait qu'un objectif, vendre du chocolat de qualité. L'entreprise a bien grandi depuis, avec 50% de son chiffre d'affaires à l'international, dont aux États-Unis qui représentent 99% de ses exportations. La marque se retrouve également au Mexique, en Europe et en Asie. Puis après plusieurs années à moderniser l'usine de Sherbrooke et à automatiser certains processus de la fabrication de chocolat, l'entreprise est entrée l'année dernière dans une nouvelle phase de son développement. En effet, après plus de 46 ans à la tête de Chocolat à la Montagne, M. Lamontagne a cédé l'entièreté de part de l'entreprise à ses enfants Tina et Dani, qui étaient impliqués dans l'entreprise depuis leur adolescence. Leur objectif ? Poursuivre la croissance fulgurante de l'entreprise qui a déjà doublé son chiffre d'affaires en 4 ans grâce à des investissements majeurs de 15 millions de dollars. Il ne s'arrête pas là. En effet, l'entreprise souhaite maintenant atteindre une croissance de 35% d'ici les 3 prochaines années.
Mais alors, comment s'y prendre? Eh bien, pour ce faire, diverses stratégies du plan d'affaires sont en action, dont certaines stratégies de communication internationale interne et externe. D'abord, puisque quelques employés sont basés en sol américain, des moyens de faire vivre la culture d'entreprise ont été étendus afin que ceux-ci se sentent partie prenante et intégrée au sein de l'entreprise. L'objectif est également qu'ils incarnent bien les valeurs de Chocolat à la Montagne. Ils représentent l'entreprise lors des foires commerciales et entrent en contact avec des multinationales désireuses de développer leur propre gamme de chocolat. Nous le comprenons donc, ils jouent un rôle clé dans le développement de la marque. La direction garde le contact avec ses employés à distance grâce à des rencontres virtuelles, des bulletins hebdomadaires et 2 événements en présentiel chaque année. Ensuite, des stratégies de communication externes sont aussi utilisées. Ces stratégies se déploient surtout dans le cadre des foires commerciales où l'entreprise se présente régulièrement et y recrute des prospects qu'elle développe pendant 12 à 18 mois. Dans ces foires, la communication visuelle est très importante. On s'assure de réserver un kiosque double et on met le paquet. Habillage de kiosque attrayant, écran animé qui démontre le sérieux de l'entreprise et les installations modernes dont elle dispose. Le but? Faire forte impression et démontrer son savoir-faire à de futurs clients comme Costco ou TJ Maxx qui distribuent leurs produits. Également, les médias sociaux sont devenus un canal de communication incontournable depuis quelques années. un spécialiste à partir des États-Unis y travaille à temps plein et y fait rayonner les plus récents produits en plus de vidéos sur la chaîne de production moderne et sur l'esprit d'équipe qui règne au sein de l'entreprise. On suit les tendances. On y retrouve même des vidéos de recettes incluant les produits La Montagne proposés par des influenceurs. Questionnés sur l'avenir de l'entreprise dans ce contexte d'exportation, les La Montagne sont très clairs. Pas question de quitter Sherbrooke. Les racines sont bien ancrées dans la ville estrienne, avec les 125 employés qui y travaillent. Tant et aussi longtemps qu'ils pourront gérer à partir d'ici, il n'est pas question de bouger.
Cependant, avec le contexte économique conflictuel entre le Canada et les États-Unis, quel avenir pour cette entreprise à l'international? L'organisation ayant construit son positionnement en revendiquant son côté canadien, peut-elle maintenir cette image sans impacter ses relations commerciales? Devrait-elle reconstruire un nouveau positionnement? Comme mentionné, une grande partie de ses exportations se fait aux États-Unis. Quels impacts ces tensions économiques peuvent-elles avoir sur sa stratégie d'exportation? Quelles actions pourrait-elle entreprendre pour sécuriser ses échanges avec les États-Unis? Comment peut-elle adapter sa communication pour préserver son image tout en maintenant ses partenariats commerciaux? Quels défis et opportunités ce contexte présente-t-il pour son développement futur? Ce sont les questionnements que traverse potentiellement l'entreprise Chocolat à la Montagne. Nous supposons ainsi que l'entreprise surveille la situation de près et élabore différents scénarios, tant sur le plan des affaires qu'en termes de communication, afin de s'adapter à la nouvelle guerre commerciale. Certainement, l'entreprise consacrera ses énergies à développer davantage les autres marchés et aura à s'adapter à des habitudes de consommation différentes du marché nord-américain.
Tout un reportage tout de même fascinant. Tout ce que peut faire une entreprise locale en chocolat à l'échelle internationale, vraiment fascinant. Fascinant et aussi notre dernier moment. Vous savez, on parlait de création il y a 2 secondes et qui dit création parle souvent aussi de musique. Et on avait envie dans cette émission-là de terminer justement avec une perspective musicale. J'allais dire venue de l'extérieur des frontières du Québec, du Canada aussi. Et pour en parler, j'ai Sophia avec moi. Allô, Sophia.
Salut.
Alors, Sophia, est-ce que tu peux me présenter la pièce musicale qu'on va entendre dans quelques instants? C'est quelque chose d'assez fort, là.
Oui, la chanson que nous allons écouter maintenant est devenue un hymne de lutte et de résistance, Sin Miedo, de la chanteuse et compositrice mexicaine et Vivir Quintana, est un puissant cri contre les violences de genre et un appel à la sororité. Sortie en 2020, cette chanson a accompagné des marches et des mouvements féministes dans toute Amérique latine jusqu'à aujourd'hui. Vivir Quintana est un artiste engagé dans la cause féministe et utilise sa musique comme un outil de protestation et de sensibilisation face aux violences que subsistent les femmes. Avec ses paroles pleines de force et d'espoir, elle nous invite à élever la voix pour celles qui ne peuvent pas le faire.
Cette pièce-là que tu évoques, rappelle-moi le titre précisément.
Oui, c'est Sin Miedo.
Sin Miedo, et ça veut dire?
Sin Miedo, c'est en espagnol, mais oui, ça veut dire en français, et sans peur.
Et quand on écoute cette pièce-là, moi, je peux vous dire bien franchement, en tout cas, effectivement, elle est vibrante. La pièce musicale, moi, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais entendue, mais quand on la voit sur YouTube, par exemple, pour nommer ça, mais sur les plateformes de vidéo, on se rend bien compte à quel point elle est forte et elle est poignante.
estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
On va terminer l'émission maintenant. Je pense que c'était une émission fascinante. On a entendu tellement de choses, tellement d'éléments reliés à différents enjeux de communication internationale. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très, très bientôt.